musiques du Grand Bleu vont nous accompagner tout le premier temps de cette émission, le magazine du midi sur Fréquence Mistral. On accueille des membres de l'association Bout de Mer. Alors, c'est Patrick Georges, président de Bout de Mer, Pierre Liotto et Émilie Saadeldine, adhérents et adhérentes de l'association. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
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 Alors, Bout de Mer, c'est une association basée à Marseille, déjà vieille de 20 ans, créée par quelques amoureux et amoureuses de la mer, notamment son fondateur Philippe Thomé, qui n'est pas avec nous. Et l'idée est de partager l'utilisation et l'entretien d'une flottille de bateaux traditionnels. Alors, est-ce que tous les trois, vous êtes aussi férus de navigation ? Est-ce que vous aussi, vous êtes amoureux et amoureuse de la mer Méditerranée ? Et comment est-ce que ça vous a conduit à vous investir dans Bout de Mer ? Peut-être on peut commencer par Pierre Liotto, le plus ancien dans l'association.
J'ai eu beaucoup de bateaux dans ma carrière et en 2008, j'ai vendu mon dernier bateau. Donc, j'avais du mal à penser que je n'aurais plus accès à la mer. Donc, j'ai recherché une structure qui pouvait me permettre de partager la mer avec d'autres personnes et de partager aussi éventuellement des embarquements, quoi. Et donc j'ai prospecté et je suis tombé comme ça tout à fait par hasard sur Bout de Mer, enfin pas par hasard puisque je cherchais, mais en fait je suis tombé sur Bout de Mer et en fait le contact a été bon et je suis resté puisque depuis je suis toujours à Bout de Mer, donc ça fait un petit bout de temps que ça dure et je continue à prendre du plaisir et à partager donc la mer avec eux. Donc on fait des choses intéressantes, on fait des sorties très différentes, on fait des sorties sociales, on fait des sorties à thème culturel, on fait aussi pas mal de chantiers parce qu'il faut maintenir ces bateaux. Donc il y a des activités et ça prend pas mal de temps et ça occupe les adhérents qui sont disponibles.
Mais on va revenir justement voilà. Plus en détail sur ces activités dans pas longtemps. On continue avec le petit tour de table. Patrick Georges, vous êtes aussi président de l'association, depuis un peu moins longtemps membre de cette association que Pierre qui est à ma gauche. Alors qu'est-ce qui vous a amené à vous investir dans cette association?
Un petit peu le hasard aussi, en se promenant au bord du Vieux Port, en voyant des barquettes. J'ai fait un premier tour un samedi après-midi, comme ça d'ailleurs, c'était Pierre le pilote. On a fait un petit tour jusqu'au Vallon des Offes. C'était il y a 6 ou 7 ans et depuis je suis resté parce que le projet est intéressant. C'est surtout un projet de passeur, c'est d'avoir envie de passer de la passion de la mer, des bateaux, du patrimoine et des compétences. Et ça, je pense que c'est un point important. Souvent, quand on rentre comme ça à Bout de Mer, on y reste pendant un bon moment.
Et vous, Émilie Saadeldine, ça fait combien de temps que vous êtes à Bout de Mer ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir là-bas ?
Mais ça fait pas longtemps que je suis membre de Bout de Mer. Et j'ai connu Bout de Mer par hasard, parce que je fais partie d'une association Merveille de plongeurs en apnée, sur Marseille aussi, et du coup qui est plutôt basée sur la préservation de l'environnement, donc on plonge pour récupérer des déchets. Et en fait on a fait une sortie l'année dernière avec Merveille et Bout de Mer, et c'est comme ça que j'ai connu Bout de Mer. Après je suis native de Marseille, et puis j'ai grandi dans les Calanques, près des Calanques de Sormion, et j'ai un attachement au patrimoine
marin,
oui.
Tout particulier. Alors, vous aviez commencé à en parler, Pierre, c'est quelles sont les missions de Bout de Mer finalement ? Qu'est-ce que vous faites avec cette association ?
Je peux peut-être essayer de répondre. Depuis l'origine, hein, c'était dans l'idée du fondateur et de ses premiers adhérents. Trois missions principales. La première, c'était démocratiser l'accès à la mer. On se rend compte qu'on soit au bord de mer ou même à la, à la montagne, quand on vit à la montagne, que finalement il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de gens qui n'ont pas accès à la mer. Donc l'idée, c'était d'essayer de trouver un moyen, en restaurant des bateaux, de leur faire accéder à la mer, et surtout, par exemple, quand on parle des jeunes, de pouvoir faire accéder à la mer à travers des centres sociaux, etc. Ça, c'est un premier point. Et la deuxième idée fondatrice, c'était de participer à la sauvegarde du patrimoine maritime méditerranéen. Parce que si on regarde c'est quoi le patrimoine maritime méditerranéen, c'était par exemple sur Marseille ou dans le Var avec les pointus sur Marseille avec ses barquettes en bois, c'était avant tout des bateaux de travail. C'était des bateaux qui appartenaient à des pêcheurs et qui les utilisaient tous les jours pour aller à la pêche. Et puis, au cours du temps, les pêcheurs disparaissant, je crois qu'il n'y en a plus que 20 ou 30 sur le port de Marseille, alors que quand on voit les premières photos ou des peintures du port de Marseille il y a des années, on ne voyait que des mâts à voile latine qui se promenaient. Donc je pense que c'est participer à la sauvegarde. Et Boudmer fait partie également de la Fédération du patrimoine maritime méditerranéen en tant que membre du conseil d'administration et fait partie de l'association du patrimoine maritime et fluvial. Donc ça, c'est le deuxième point. On participe à la sauvegarde et on verra peut-être au cours de quelle façon, à la fois dans l'entretien, mais on est en train de relancer la voile latine sur un de nos bateaux qui est quand même le gréement emblématique de la Méditerranée depuis l'Antiquité. Puis le troisième point, c'est de sensibiliser au respect de l'environnement pendant nos sorties. C'est important de dire on est sur la mer, à la fois de sensibiliser les gens sur le respect quand on voit tous ces plastiques flottants, puis qu'on a tout ce qu'on ne voit pas également, les microplastiques qui sont importants. Donc je dirais que ces trois missions, on démocratise, on participe à la sauvegarde, on est sensibilise à l'environnement. Puis je donnerai juste trois chiffres pour pas embêter les gens, mais démocratiser l'accès à la mer, c'était 368 sorties en 2021, donc c'est presque une sortie par jour, hein. Donc ça veut dire que avec la météo, il y a des jours où on ne sort pas, puis des jours où on sort cinq fois. La sauvegarde du patrimoine, on a consacré plus de 1000 heures en 2021 à l'entretien des trois barquettes qui sont classées d'intérêt patrimonial, hein, ce qu'on appelle les bateaux BIP, il y en a à peu près 1600-2000 en France. Et puis plus de 18 sorties de sensibilisation à l'environnement. Alors on a parlé de merveilles tout à l'heure. On est dans les partenaires des pirates du plastique avec le parc national des Calanques et on participe évidemment aux Calanques propres organisées par Mertel. Hein, donc c'est ça, trois missions qui durent depuis 20 ans et qui perdurent. Et je crois que ça, c'est important.
Je reviens sur le premier point, donc, qui est démocratiser l'accès à la mer. En fait, quels sont les freins qui existent pour... et qui font qu'il n'y ait pas un accès pour tous et toutes. Pourquoi est-ce que les habitants et habitantes d'une ville qui est accolée à la mer peuvent pas participer à tous les bienfaits et se sentir proches de ce littoral ?
Ben, déjà, dans un premier temps, je pense que les Marseillais sont plus... même si on est en bord de mer, on n'est pas très tourné vers la mer. On n'est pas des vrais marins, je pense qu'on est...
Et c'est dû à quoi, alors, ça ?
Je ne saurais pas répondre culturellement, je pense, j'imagine. Hein. Donc, en fait, la mer, c'est un endroit qui est accueillant, mais c'est un endroit qui peut être hostile aussi, je pense. Donc, il y a peut-être ce côté aussi de peur, mais il y a aussi une question aussi de moyens. Je veux dire, avoir un bateau, entretenir un bateau, ça a un coût, ça coûte assez cher. C'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas à la portée de tout le monde aussi de trouver une place pour garer son bateau au port, etc. Donc, moi, c'est un peu ce qui m'a séduit quand j'ai adhéré à Boudmer, c'est justement cette mutualisation. Hein. Et c'est le fait qu'un bateau ne va pas servir qu'à une seule personne ou à une seule famille, mais il va être partagé avec beaucoup de personnes et dans des activités qui vont être assez diverses. Ouais, c'est le côté qui m'a intéressé. Ouais.
On peut revenir aussi sur le côté dangereux de la mer. En effet, je ne suis pas sûre que tous les enfants et jeunes de Marseille aient accès à des cours de natation et sachent même nager pour aller vers ce territoire naturel-là.
Tout à fait, tout à fait.
Et avant du coup de revenir sur les outils qui sont en l'occurrence les barquettes de l'association, je vous propose de réécouter encore une musique du Grand Bleu de Eric Serra. Vous allez peut-être reconnaître l'instant de ce film qui est associé. Alors sur Fréquence Mistral, on est toujours avec les membres de l'association Bout de Mer. Alors nous avons le président Patrick Georges de l'association et deux adhérents et adhérentes, Pierre Liotto et Émilie Saadeldine. On parlait des missions de cette association, est-ce qu'on peut parler maintenant des outils? Donc comment est-ce que vous menez à bien ces trois missions que vous avez évoquées, à la fois démocratiser l'accès à la mer, à la fois sauvegarder le patrimoine maritime? Déjà on se concentre sur démocratiser l'accès à la mer. Vous avez évoqué le fait que vous êtes propriétaire de bateaux. Alors déjà, quel bateau? Et vous évoquiez une voile en particulier. Comment vous pourriez décrire cette voile-là? La voile palatine? Non.
Je commence peut-être par les outils, les bateaux. Hein, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui sur la mer 5 embarcations. Ces embarcations sont d'abord 3 bateaux d'intérêt patrimonial, donc des barquettes marseillaises. Aujourd'hui, celle qui est la plus vieille sur l'eau date de 1932, c'est la Bépina. C'est un bateau qui appartenait à un pêcheur des Goudes et que l'association a restauré il y a une quinzaine d'années.
Un maintenant. Pêcheur qui vous en a fait don?
Ouais, alors donc souvent ce sont des dons de famille lorsque après un décès, etc. Donc les gens ne savent pas quoi faire du bateau. Soit il va être détruit, ou alors en faire don à une association qui va le restaurer. Hein, donc ce sont des 3 barquettes plus 2 voiliers en polyester, dans un voilier habitable avec 6 couchettes. Et le côté voilier, alors on perd un petit peu le côté patrimoine, mais c'est aussi de l'attractivité, c'est-à-dire que si on veut attirer des jeunes pour permettre la continuité de l'activité de bout de mer, c'est vrai que ces bateaux à voile peuvent faire cet effet d'attractivité. Et ensuite, ils découvrent les bateaux traditionnels, etc. Donc, après, comment on les entretient? Je vais laisser la parole à Pierre.
Mais comment on les réhabilite? Et puis aussi, peut-être revenir sur la différence entre barquette et voilier, parce que peut-être que les auditeurs, auditrices ne savent pas ces nuances-là.
Alors, les barquettes, ce sont des bateaux traditionnels en bois, qui date du XXe siècle, début du XXe siècle, on va dire, la plupart. C'est des bateaux qui, initialement, étaient prévus pour ce qu'on appelait les petits métiers, c'est-à-dire la pêche à la journée. Les pêcheurs partaient à la journée, donc ils partaient à la rame et à la voile, quand ils pouvaient. Il faut savoir que la motorisation de ces bateaux n'est arrivée que dans les années 1925. Donc avant, c'était à la rame et à la voile que ça se passait. Donc ce sont des bateaux en bois qu'il faut maintenir et qui demandent beaucoup plus d'entretien que le polyester. C'est pour ça que malheureusement, le patrimoine s'étiole. Hein. Je crois qu'en l'an 2000, il y a eu un recensement qui a été fait au niveau des ports. Il ne restait que 500 barquettes marseillaises dans les 24 ports de la région marseillaise. Donc ça fait, il n'y a plus beaucoup de ce genre de bateau. Hein. C'est vrai qu'il demande beaucoup plus de soins qu'un bateau en plastique. C'est assez clair. Donc la restauration, elle se fait pour nous parce qu'on a... On a la chance d'avoir des compétences dans différents domaines auprès des bénévoles qui sont dans l'association. Donc on a des bons bricoleurs. Et puis on a aussi une convention avec le lycée Poinceau-Chapuis, qui est un lycée qui est spécialisé, enfin qui fait de la charpente de marine, et avec qui on travaille. Donc quand on a des pièces à réaliser, on peut travailler avec leurs machines. Et on accueille aussi des élèves du lycée Poinceau-Chapuis sur nos chantiers de carénage. Voilà, donc il faut savoir que tous les bateaux, on les sort à minima une fois par an. Et c'est une intervention sur chaque bateau d'une quinzaine de jours, à peu près, pour remettre vraiment en ordre tout ce qu'il faut, quoi.
Ok, pour que le bois ne soit pas abîmé au fur et à mesure des années.
C'est ça, donc il faut reprendre le bois, il faut reprendre ce qu'on appelle le calfatage, l'étanchéité des planches hein, entre elles. Il faut reprendre, le bois c'est un matériau qui vit, hein, qui travaille, qui s'abîme, qui s'use. Et donc aussi il y a une partie mécanique, puisque quand même sur les barquettes on a des moteurs, on a des rames aussi, mais on a des moteurs, donc les moteurs nous servant pour aller à la pêche, puisqu'on a un des bateaux qui n'est pas équipé de voile. Hein. Donc,
Est-ce que vous avez des sorties aussi de pêche? Vous avez des sorties de plaisance, on va dire, et des sorties de pêche?
Voilà, donc on a des sorties différentes. Donc on a dans les barquettes traditionnelles qui sont BIP, bateaux d'intérêt patrimoniaux, on a trois barquettes. On a une barquette qui s'appelle l'Espadon, qui est une barquette de 7 mètres, qui est uniquement à moteur, qui n'est pas équipée de mât ni de voile. Et on a deux autres barquettes. Une barquette qui est équipée d'un gréement, ce qu'on appelle aurique. Et une autre barquette, la Bépina de 1932, qui est équipée donc maintenant depuis peu d'un gréement latin.
Et ça sert à quoi ce label BIP, bateau d'intérêt patrimonial?
Alors le label BIP sert justement à conserver l'historique et la mémoire de tout ce qui touche au bateau. Et également nous oblige à restaurer le bateau dans les conditions initiales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas...
Utiliser des produits qui n'existaient pas alors. Et vous avez un nouveau projet, la barquette Ruo Polo de 1913, qui fait l'objet d'un don à réhabiliter. Et comment est-ce que, du coup, c'est un rafio qui a plus de 100 ans finalement que vous allez réhabiliter? Et vous allez même tenter une expérimentation avec une voile photovoltaïque et motorisation électrique. Donc est-ce que vous pouvez parler un peu plus en détail de ce projet-là?
Alors d'abord, elle s'appelle Mercedes, la barquette. Elle a été fabriquée en 1913 dans les ateliers du charpentier Ruo Polo. C'est un peu le Stradivarius de la barquette marseillaise, un des pères des barquettes marseillaises, puisqu'il a amené ce dessin de bateau et cette technique depuis l'Italie, de la région de Naples. Et donc on a récupéré il y a des années cette barquette, et puis bon, c'est toujours long et difficile de monter un projet, surtout pour trouver des financements. Et là, on a donc décidé de dire, mais on va restaurer cette barquette et on va faire un pont entre le patrimoine ancien La charpente du bateau en bois, et puis les technologies nouvelles et surtout plus respectueuses de l'environnement. Comme on a dit tout à l'heure, les moteurs, ça date des années 20. Donc là, on peut faire ce qu'on veut. Donc nous, on va mettre un moteur électrique d'abord, un moteur brushless qui va fonctionner avec des batteries. Donc ce sera une éco-navigation sans bruit. Boudmer, c'était l'éloge de la lenteur. Maintenant, on va y rajouter la navigation sans bruit. Et donc, on peut également charger les batteries de ce moteur avec une solution photovoltaïque. D'abord, un panneau, et puis de faire un test avec une voile photovoltaïque qui permettra de recharger les batteries en route. C'est-à-dire que là, on sera. L'idée, c'est un petit peu de faire un démonstrateur, parce que de plus en plus, on va voir. Des motorisations hybrides et électriques, c'était visible, c'est déjà visible sur les voitures, ça va être visible sur les bateaux également. Et en ce moment, c'est les nauticales à La Ciotat, donc cet événement nautique, et on voit pas mal de jeunes entreprises qui développent des solutions. Et donc nous, on a choisi une solution développée par une entreprise des Bouches-du-Rhône qui s'appelle Ozo Électrique, qui a démarré sur la motorisation des vélos et qui fait grossir ses moteurs aujourd'hui pour mettre sur des bateaux.
Et à quel usage est-il nécessaire en fait d'ajouter des batteries en lithium? Est-ce que on peut pas se dire que c'est le plus éco-responsable? Finalement, c'est juste la voile et les rames. Est-ce que maintenant c'est vraiment nécessaire d'y rajouter des batteries et de motoriser tout ça?
La batterie permet de l'autonomie. Alors c'est sûr qu'on pourrait dire on va laisser à la voile et à la rame, mais je pense que bon, on ne trouverait pas beaucoup de volontaires pour faire des sorties rien qu'à la rame, bien qu'il y ait une fédération en France qui s'appelle la Fédération de Voile Aviron, où les gens. Mais ce sont des barques beaucoup plus légères que transporter des barques. Quand vous voyez, c'est un bateau, on regardait le calcul à peu près, ça va faire au total 1,5 tonne quand on va avoir les gens dans le bateau, 6-7 personnes, le moteur, les batteries. Alors aujourd'hui, qu'un moteur diesel, c'est un poids qui est assez important, qui dépasse les 2 tonnes pour un bateau.
Et à chaque sortie, alors vous utilisez le moteur ou des fois le vent est-il suffisant, la force du vent est-elle suffisante pour aller naviguer?
Ah ben déjà, pour sortir du port,
il n'y a pas le droit d'ouvrir
le droit de sortir les voiles. Ouais, donc, on est obligé de sortir au moteur ou à la rame. Donc, et après, donc, en fonction des conditions, effectivement, c'est la voile qui prend le relais, sauf pour le spadon qui n'est pas équipé de mât ni de voile.
Eh bien, du coup, c'est un nouveau projet qui promeut d'autres solutions encore éco-responsables, en tout cas qui transforme l'idée du moteur. Et pour continuer sur vos outils, donc au-delà des bateaux que vous avez, de cette flotte que vous avez constituée au fur et à mesure des années, on va parler de vos autres missions et de vos autres outils, mais avant, encore un peu de musique.
Thank you.
Sur Fréquence Mistral, on en apprend un peu plus sur Bout de Mer, une association qui promeut les sorties en mer, la navigation, aussi le partage d'une flotte de bateaux traditionnels et qui travaille en lien avec de multiples autres associations, notamment dans le but de sauvegarder le patrimoine maritime méditerranéen, démocratiser l'accès à la mer et sensibiliser au respect de l'environnement. Alors, dans l'idée de démocratiser l'accès à la mer, vous aviez déjà été partenaire de Unicité et Adapt 13, qui permet aux jeunes de connaître la plaisance, de s'investir pour que la mer Méditerranée soit protégée aussi. Aujourd'hui, en 2022, avec qui travaillez-vous donc pour ouvrir les loisirs nautiques au plus grand nombre?
Alors, on reçoit aussi des dossiers d'aide, on monte des dossiers d'aide avec la préfecture, avec le conseil départemental, pour pouvoir sortir toutes ces associations et ces centres sociaux. On a par exemple CADA, qui est un organisme d'aide aux demandeurs d'asile. Déjà ce matin, ils nous ont envoyé par exemple un programme pour juin-juillet de sortie avec des gens qui sont pris en charge par cette association pour démarrer leur démarche d'asile. On a également un dossier avec la préfecture qui s'appelle Ville, Vacances, Vie et qui nous permet de sortir une dizaine d'associations pendant les vacances scolaires. Et on finira le projet 2021 pendant les vacances de printemps. Et donc à chaque fois, une dizaine de sorties, ça fait une centaine d'enfants de centres sociaux qui vont sortir. Et puis après, il y a des initiatives que l'on relaie, comme l'initiative en 2021 qui risque de se reproduire en 2022 avec les petits loups. Et là, c'est l'Office de la mer qui organisait ces sorties. Et Pierre pourra peut-être nous parler, puisqu'il a participé quand la grande marionnette est venue de Syrie.
Ah,
donc
oui.
On a emmené des enfants du centre social de Saint-Mauron.
Alors, c'était quoi cette sortie?
La marionnette a parcouru un peu le parcours des migrants, et donc nous, on a embarqué des enfants de différentes écoles pour accueillir le bateau qui a ramené la marionnette. Donc on est
allé... Qui a un nom, non ? C'est quoi le nom de cette marionnette ? Asma, je sais. C'est Asma.
Asma, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc on est allé au large, on a attendu donc que le bateau arrive. Et on l'a donc escorté jusqu'au Mucem. Et donc là, on a débarqué les enfants et après, on a suivi la marionnette qui a continué son périple à Marseille.
Et pour sensibiliser au respect de l'environnement, vous êtes aussi en lien avec donc d'autres associations. Vous évoquiez Mère Terre. Aussi des événements associatifs comme les pirates du plastique, le lien avec Merveille qui sont donc des plongeurs qui vont ramasser du plastique. Vous avez aussi l'idée de ramasser avec du filet à plancton les macroplastiques qui peuvent exister dans les fonds sous-marins. Où est-ce que ça en est, tous ces liens pour sensibiliser au respect?
Ça avance très vite. La semaine dernière, il y a eu une réunion avec les différents partenaire du Parc National des Calanques pour démarrer le projet 2022 des pirates du plastique. L'an dernier, on avait mis nos bateaux à disposition et la campagne de communication, les photos en ville, etc., c'était sur des bateaux de bout de mer. Et donc, ça démarre la semaine prochaine. Il y a une journée de formation à la caractérisation des déchets organisée par le parc. Donc, il y a 3 ou 4 personnes de bout de mer qui vont participer. Donc, ça, c'est parti avec différentes associations. Et puis, avant-hier soir, il y avait la réunion Mer-Terre, où il y avait des gens de bout de mer qui ont participé pour organiser, je crois que c'est le samedi 4 juin que l'opération Calanque Propre va avoir lieu, à la fois sur terre et sur mer. Et je pense que on a retenu que Boudmer aurait deux zones de ramassage sur le Frioul, sur terre, et puis on a proposé également d'accompagner des plongeurs sur mer. Hein, donc les projets sont lancés, oui. Alors une petite chose qu'on voudrait faire au niveau de Boudmer également, c'est-à-dire d'équiper nos bateaux avec des filets, des épuisettes, des sacs, et de faire une caractérisation par mois ou par trimestre que l'on enverrait à Merterre pour faire un bilan de ce qu'on ramasse à chaque sortie, plutôt que d'aller les jeter comme ça, qu'on ait une démarche. On pense que l'environnement, c'est pas dogmatique. Ça ne devrait pas être que dogmatique, ça l'est trop souvent, malheureusement. C'est à la fois comportemental, c'est scientifique et c'est technologique. Hein. Et donc, nous, on a décidé, par exemple, de faire les carénages à l'anse de la réserve, parce que c'est un endroit où il y a un site de recyclage, ou avec une caractérisation assez fine entre l'huile, entre les hydrocarbures, entre les plastiques, les peintures. Et ça, c'est du comportement, c'est pas du dogme.
On revient juste sur l'écarénage, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, le carénage, ce qu'on appelle le carénage, c'est
la restauration.
La restauration, c'est-à-dire une fois par an, on sort le bateau.
Ah, c'est ce que vous disiez. Oui, vous sortez les bateaux.
On sort les bateaux à terre, donc on va la plupart du temps à l'UNM, parce que justement, il y a une zone de carénage où il n'y a rien qui retourne à la mer. Hein, quand on nettoie le bateau, quand on gratte les peintures, tout part dans des gros décanteurs qui séparent après la pollution de l'eau. Et voilà, donc le carénage, c'est le moment annuel où on remet le bateau, on redonne de l'éclat au bateau, en fait.
Donc vous imaginez un ramassage permanent et aussi de cette volonté de bien faire attention à ce que la mer Méditerranée ne déborde pas finalement de tous nos déchets, les déchets qui peuvent être liés à l'usage des bateaux. Ça serait peut-être disponible sur le site, à la suite de ça, Remède Zéro Plastique.
Remède Zéro Plastique, oui.
Alors pour finir cette discussion avec vous, Boudmer. Donc les slogans de votre association sont « Partageons un bout de mer, partageons la mer ensemble » ou encore, vous l'évoquiez, « L'éloge de la lenteur ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez des autres idées de slogans pour le futur ?
Alors ça, c'est une question piège.
C'était la question surprise d'émission. Il faut réfléchir. Est-ce qu'ils vous vont toujours, ces slogans, « L'éloge de la lenteur » ?
Moi, je crois. L'éloge de la lenteur, c'est ce qui caractérise. Et ça sera encore plus vrai avec une motorisation électrique, où on va profiter également de beaucoup plus de l'environnement, même si on va perdre un petit côté patrimonial du bruit de ces moteurs diesel, des barquettes qu'on entendait le matin sur les tantos ou dans les ports très tôt. Quand les pêcheurs partaient ou revenaient, mais je pense que profiter de la mer, je pense que ça va faire profiter à tous une mer propre.
Oui. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Patrick Georges, Pierre Liotto et Émilie Saad Eldine, d'être venus dans le studio marseillais de Fréquence Mistral. Et à bientôt en mer, sûrement. Et on donne rendez-vous peut-être aux auditeurs, auditrices sur votre site internet ou... Alors, qu'est-ce que c'est votre site internet ? On le dit, si jamais il y a des personnes intéressées pour être adhérents ou adhérentes.
Alors, c'est www.boudmer.org. Donc, c'est très simple.
C'est tout simple. Boudmer sur internet, vous aurez toutes les informations.
Et on ne peut monter sur nos bateaux que si on est adhérent, comme toute bonne association.
Eh bien, à adhérer. C'est le mot de la fin. Et on finit encore une fois avec Eric Serra, donc, qui a été compositeur pour la musique du film Le Grand Bleu. Et le titre, c'est Waterworks.